France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Alors, je m'appelle Nathalie Stutzmann. Je suis née par une nuit de printemps, le 6 mai.
Et où ?
À Suresnes. Je suis chanteuse et chef d'orchestre, ou chef d'orchestre et chanteuse.
Disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas, pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les âmes, et loin d'eux, et nous nous ressemblons, et nous dit que nous sommes, fleurs tous deux.
Bonjour Nathalie Stutzmann.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. On est ici à Paris, tout au calme. Vous nous accueillez dans votre atelier.
C'est ça. C'est mon atelier de travail. C'est vraiment l'endroit où, quand je peux venir quelques jours, vraiment me recentrer sur la musique uniquement. Vous voyez, on est entouré de livres et de partitions. C'est vraiment la grande table de travail avec tout le matériel d'orchestre. Et c'est un endroit... qui est très paisible, qui est très que j'ai voulu très zen aussi dans sa décoration pour vraiment laisser l'espace au travail.
Il n'y a pas de piano ?
Pas ici, voilà. Ici, je travaille sans piano parce qu'il y a des voisins, mais j'ai un Steinway quelque part.
Alors Nathalie Stutzmann, vous êtes née par cette nuit de printemps de parents mélomanes. Vous avez peut-être chanté avant de parler, je ne sais pas.
Oui, mes parents étaient tous les deux chanteurs d'opéra. Donc, c'est vrai que j'ai été baigné dès ma plus tendre enfance, surtout dans la voix, en fait, plus que dans la musique, parce que je les entendais travailler leur rôle. Et, voilà, donc, c'était un bain vocal. Et puis, rapidement, j'ai pu découvrir... en fait, le travail du chanteur, mais aussi surtout tout l'aspect qui m'intéressait, c'est-à-dire la vie de l'opéra, la vie de la troupe, la fosse d'orchestre. Mes parents me disent toujours que je passais beaucoup de temps dans la fosse pour observer les musiciens et le chef déjà. Et puis je passais beaucoup de temps aussi en coulisses pour regarder. J'aimais regarder les chanteurs de profil de la coulisse, les avoir proches, voir leur effort, leur concentration. C'était très beau. Et je ne voulais rien faire d'autre, en fait.
Mesdames et messieurs les solistes, de Ludovic Adrien, dans 5 minutes, nous allons
commencer.
Entrée du chef.
Vos premiers souvenirs, Nathalie Stutzmann, j'allais dire de musique, ce sont des parents à Paris, à Suresnes, je ne sais pas.
Oui, à Paris.
Qui répètent.
Suresnes, c'est juste qu'il y a une bonne maternité, je pense. Qui répètent. Ma mère était à l'Opéra de Paris à l'époque. Et oui, et puis il y avait un piano à la maison et j'étais très vite attirée par l'instrument. Donc j'ai commencé le piano très jeune.
Et ils chantaient ensemble, vos parents ?
Ils chantaient parfois ensemble aussi, oui, absolument.
Votre père, baryton basse,
voilà.
Votre mère, soprano.
Soprano, lyrique, spinto, enfin, une voix puccinienne, vous voyez.
Et vos parents étaient eux-mêmes nés dans des familles qui étaient musiciennes, ou bien de chacun des côtés, c'était comme ça l'apparition de la musique avec eux-mêmes ?
Non, pas du tout. Ma mère est née dans une famille de boulangers. Et j'ai passé une partie de mon enfance d'ailleurs chez mes grands-parents quand mes parents étaient en tournée, donc avec la bonne odeur des brioches. Mais ma grand-mère, notamment... adorait la musique, elle adorait le chant, et quand elle était petite fille, elle allait à l'opéra avec mon arrière-grand-mère, qui était couturière, à l'Arsenal de Metz. Et donc, elles étaient, parce que toute ma famille, originairement, vient de l'Est de la France.
De côté de votre mère et de votre père ?
Oui, absolument. La Lorraine en force. Et voilà, donc c'était une famille de boulangers, mais où il y avait un piano, où il y avait... toujours, ma grand-mère chantait souvent, Et le lundi, quand la boulangerie était fermée et que j'étais avec elle, eh bien, elle me passait des disques de Mado Robin, d'Alain Vanzo, tout l'opéra, tout ce qu'elle aimait, en fait.
Et du côté de votre père, il y avait aussi cette musique ou votre père était le premier à épouser cette carrière ?
Là aussi, ses parents, donc mes grands-parents paternels, n'étaient pas du tout musiciens, mais ils aimaient bien écouter de la musique, mais un peu moins, disons, dans le milieu classique que mes grands-parents maternels.
Donc il y avait aussi la chanson,
voilà, plutôt la
d'autres
chanson,
répertoires.
Voilà, la chanson, les crooners, enfin voilà, plutôt ce style de musique.
Vous êtes fille unique ou dans...
Eh oui, hélas. J'aimerais avoir des frères et sœurs, mais c'est... Non, malheureusement, fille unique, oui, c'est un statut un peu particulier.
Vous nous disiez, Nathalie Stoutzmann, que vos parents, évidemment, étant musiciens, partaient en tournée. Vous passez comme ça des longues semaines chez votre grand-mère à Pont-à-Mousson, je crois.
Oui, absolument. Entre l'âge de 4 ans et 9 ans, surtout. J'ai passé beaucoup de temps.
Et du coup, c'est quoi ? C'est une scolarité un peu décalée dans ces cas-là, non ? Quand on passe des semaines comme ça ?
Oui, c'est difficile. C'est difficile. À la fois, il y a l'admiration pour des parents qui sont sur scène. Et c'est assez un sentiment assez extraordinaire d'aller à l'opéra, d'arriver à Garnier, de voir sa mère chanter Bohème, voilà. Et en même temps, c'est douloureux pour l'enfant parce qu'on est assez privé de ses parents en temps. Voilà, heureusement, une grand-mère aimante, mais ça manque un petit peu.
Et du coup, il y avait ces allers-retours, cette Lorraine que vous dites présente, cette musique, d'une certaine façon. Est-ce que c'est la musique qui l'aurait emporté en premier chez vous, Nathalie Stoutzmann, plus que la voix, plus que...
Ah, toujours, chose. C'était la musique, ouais, absolument. En fait, j'ai toujours eu une certitude, aussi folle qu'elle puisse paraître, mais ce sont des certitudes d'enfant, mais pour moi, je n'avais aucun doute, c'est-à-dire ma vie, ça serait en musique ou pas. C'est fou d'y penser, parce qu'il aurait pu se passer tellement de choses, mais je pense que même balayeuse d'une salle de concert, ça, c'était au moins, il fallait que ça soit là, il fallait que j'entende de la musique. Et le piano était très important déjà à cette époque.
Alors, dans vos souvenirs d'enfance, quand vous êtes comme ça, dans les coulisses, c'est vrai que c'est complètement merveilleux, c'est la découverte d'un monde. Est-ce que vous aviez, petite fille, la fascination de la musique, on l'a entendu, mais aussi de tout le décorum, si je puis dire, aussi de ce que sont les costumes, enfin, c'est-à-dire d'un univers d'opéra qui est particulier dans l'univers de la musique ?
La fascination que j'avais, c'était... En fait, j'ai toujours trouvé extraordinaire de ne pas vivre comme les autres. C'était pas du tout les costumes, ça je m'en fichais complètement en fait. Mais je sais pas, l'idée de voir Les gens rentraient le soir, allaient dîner, regarder un film, et puis déjà enfant, aller à l'opéra, aller à une répétition, se coucher à minuit, je trouvais ça merveilleux. L'idée de vivre complètement décalé par rapport à la société me semblait en fait comme un rêve d'enfant. Et je me disais, mais on peut être adulte et avoir cette vie-là. C'est ça qui m'accrochait aussi.
Il y avait, par exemple, chez vos parents aussi, des moments où ils avaient des amis qui venaient, ils faisaient de la musique ensemble. Vous avez des souvenirs aussi comme ça? Une vie aussi amicale, joyeuse, où on boit, on chante. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie de votre entourage?
Pas vraiment à la maison, mais plutôt, effectivement, quand je pouvais les suivre, c'était pendant les vacances scolaires. Et parfois, c'était pendant les périodes de fin d'année. Et j'ai pas mal de souvenirs de les avoir vus se retrouver après les répétitions, jouer aux cartes, ou fêter des nouvel an dans des restaurants jusqu'à pas d'heure, parce qu'il y avait eu un spectacle jusqu'à minuit, on se couchait à 5h et ils rechantaient le lendemain après-midi. C'était fou. Mais il y avait quand même vraiment cette vie de troupe. Je dirais beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus mélangé, on est avec des castings très internationaux où on se retrouve pas forcément, alors qu'à l'époque les gens faisaient plus de carrière nationale, donc les artistes se retrouvaient beaucoup plus souvent entre eux comme une troupe de théâtre. Donc il y avait les copains quoi autour, c'était plus qu'aujourd'hui je pense.
De cette musique arrive très tôt. Vous faites pourtant une scolarité tout à fait normale et vous allez commencer par l'apprentissage d'instruments, Nathalie Stoussmann.
D'après ce qu'on m'a dit, je chantais tout le temps. Ça, c'est... Voilà, je m'en souviens pas, mais... Enfin, je ne me souviens pas quand j'ai commencé, mais je me souviens très bien que, enfin, quand j'avais 6-7 ans, dès qu'il y avait une occasion de chanter, je chantais. Je prenais une corde à sauter, je prétendais que c'était un micro, je me mettais... Même en vacances, dans les rues, j'avais aucune gêne, je chantais, les gens me jetaient des pièces. Enfin,
et vous chantiez quoi?
Hallucinant, mais tout, n'importe quoi, Luis Mariano, tout ce que j'entendais, Rigoletto, vraiment, c'était... Tout ce que j'entendais, tout ce que je retenais, je chantais. Mais apparemment, j'avais aussi une certaine fascination pour la direction, puisque j'avais tendance à suivre les harmonies municipales dans les villes et à me mettre devant en prenant le bâton des majorettes et en leur battant la mesure. Donc j'aimais bien déjà les commander avec le truc. Enfin, c'est amusant, mais c'est ce qu'on me raconte. J'avais 4 ans, 5 ans. Voilà, donc j'étais attiré de toute manière, c'est la seule chose qui m'intéressait vraiment profondément.
Les grands entretiens de Nathalie Stoutzmann, France Musique.
C'est peut-être aussi cette vie qui a été décalée, que vous aimiez de ne pas être comme les autres, qui a forgé cette personnalité aussi, de ne pas avoir peur de courir derrière des orchestres d'harmonie.
Oui, pour tout ce qui était musique, je n'avais pas peur. Pour le reste, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt anxieux. Mais pour ça, non. C'est vrai, vous avez raison. Il y avait une espèce d'innocence, Et pas seulement, peut-être, enfin vraiment une certitude que j'avais un chemin à suivre dans ce sens-là. Avec le recul, ça me semble fou, mais vraiment, je l'ai toujours senti instinctivement. Et quand je vois des jeunes, parfois qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ou bien je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour survivre psychiquement? Parce que c'était une telle bouée. De pouvoir savoir exactement ce que je voulais faire, c'était une assurance extraordinaire. Ça n'empêche pas, j'ai eu beaucoup de difficultés à...
Ça n'empêche pas le doute.
À pousser, et j'ai douté tout le temps. Mais ça donne une sorte de confiance, d'espérance, dans un futur où on peut vivre sa passion, tout simplement.
Dans la nuit, Florin a pris mes armes et ta main. Tu frémis, tu ressens tes malheurs. Je vois ton désespoir, tes yeux versent des larmes. Malheureux, est-ce assez de répandre des peurs? Ah, généreux guerrier, jouir de ta victoire.
Et ça, avec votre père et avec votre mère, bien avant que votre mère ne vous donne des cours de chant, parce que là, on sera beaucoup plus tard à l'adolescence. Mais ils sentaient ça, et ils l'ont favorisé, fructifié, ou bien au contraire, ils étaient aussi peut-être à essayer de faire que vous ne jetiez pas à corps perdu, si jeune.
Non, ils le savaient évidemment. Je pense que ils m'ont encouragé toujours, mais en essayant de me mettre en garde sur le fait que si mon rêve pouvait se réaliser, ça impliquait beaucoup de choses. D'abord que c'était pas une vie aussi facile qu'elle en avait l'air. Et plus j'ai grandi, plus ils me mettaient en garde sur les difficultés potentielles, sur les choix à faire, sur les sacrifices à faire. Sur le fait que je pouvais avoir un rêve, mais ne pas être nécessairement doué. Avant même de prendre les leçons de chant, il me disait aussi que je semblais avoir une voix tout à fait spéciale, mais avant d'avoir travaillé, on ne peut pas savoir ce que ça va donner, réellement, professionnellement. Donc, ils essayaient, je pense, de calmer mes ardeurs dans le sens où ils ne voulaient pas que j'ai une déception trop importante, où je me fasse des illusions si je n'avais pas de talent. En même temps qu'ils me soutenaient, en tout cas, voyant les capacités que j'avais déjà, ne serait-ce qu'avec les instruments, et ça marchait bien. Donc voilà, il y avait quand même une certitude sur mes aptitudes à l'exercice musical. J'ai commencé le piano, j'avais quand même des facilités, et je suis rentré ensuite en classe musicale. Quand j'ai eu 11 ans, et ça a été vraiment un moment extraordinaire.
Parce que là aussi, on se retrouve avec des gens qui sont comme nous.
Exactement. Les horaires aménagés, c'est un bonheur absolu de pouvoir être tous les après-midi au conservatoire. J'ai commencé à être vraiment heureuse à ce moment-là.
Quand vous êtes au conservatoire, l'entrée au collège, vous y êtes avec quel instrument ? Avec le piano ? Avec le basson déjà ?
Alors j'avais le piano, alors mon rêve absolu c'était de faire de la clarinette. Quand j'avais 8-9 ans, j'ai dit je veux absolument faire de la clarinette. Et là on m'a dit non, c'est pas pour les filles.
Ah bon ?
Ouais. Parce que quand même, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et pourtant... on me sortait des choses aussi énormes que ça. Et donc, j'aurais ce regret éternel de ne jamais avoir pu entrer en classe de clarinette parce qu'on m'avait dit que ce n'était pas pour les filles. Et puis, étant donné que j'avais l'oreille absolue, blablabla, on m'a dit, il faut faire des cordes. J'ai dit, mais j'adore les cordes, mais je n'ai pas l'impression que j'ai du talent pour ça. Non, on va faire les cordes. Donc, on vous oriente, tac, tac, deuxième instrument. Donc là, on m'a mis à l'alto parce que j'étais à 9 ans, j'étais déjà un petit peu âgé pour le violon. Donc, j'ai commencé de l'alto. 1 an, 2 ans, 3 ans, je trouvais ça tellement douloureux de tenir l'instrument. En fait, j'ai arrêté l'alto parce qu'en fait, on a découvert que j'avais 13 côtes. Enfin, ça, c'est vraiment l'anecdote. J'ai 13 côtes, donc en fait, j'ai une côte flottante qui arrive juste à l'endroit où on doit tenir l'instrument. Donc, quand je disais que c'était douloureux, c'était pas faux.
Vrai, ouais.
Donc, quand le médecin a prouvé ça, le lendemain, j'ai arrêté l'alto. Et là, j'ai recommencé la clarinette. On m'a dit, ah ben non, c'est toujours pas la clarinette. Donc, on m'a mis en classe de violoncelle. Ensuite, j'ai étudié le violoncelle.
Vous êtes toujours quand même dans les registres graves.
Toujours, vous avez remarqué. Hein. Bon. Clarinette, c'est la douceur, c'est un peu moins grave, mais enfin, c'est quand même très... C'est pas le piccolo. Et j'ai fait du violoncelle, que j'ai énormément aimé, mais comme je l'avais si bien dit, j'avais une excellente oreille, mais je n'avais aucun talent pour jouer les cordes. Cela dit, ça me sert beaucoup aujourd'hui, donc je suis ravi d'avoir travaillé des instruments à cordes. Et quand finalement j'ai eu 12-13 ans et que j'avais l'âge de décider moi-même, j'ai dit que je voulais toujours faire de la clarinette. On m'a dit que j'étais trop âgé pour rentrer en classe de clarinette et il restait que le basson. Donc je suis rentré en classe de basson et j'ai beaucoup aimé jouer du basson, j'étais plutôt doué. Voilà. Donc j'ai toujours été doué pour les instruments avant, pas du tout pour les cordes, hein. J'ai aucun talent pour les cordes.
Ça va avec le chanteur qui sommeille.
Oui, oui, mais là, vraiment, j'ai sauté les classes. En 3 ans, j'étais à l'orchestre. Enfin, c'était incroyable.
Alors, quand vous disiez au tout début, pour moi, c'était la musique avant tout. Chez les musiciens, je trouve, souvent, il y a ceux qui vont avoir une passion pour un vecteur, si je puis dire, bien précis, qui vont aimer un instrument qui va faire, voilà, et d'autres qui aiment la musique, et finalement, l'instrument n'est qu'un passeur pour la musique. Vous seriez plutôt de cette catégorie,
oui,
Nathalie
Stutzmann. Complètement. Et même ma voix, je le dis toujours, j'ai toujours considéré ma voix comme un instrument qui peut s'exprimer, mais pas du tout comme une chose à part. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui se fond dans la musique. C'est quelque chose qui sert la musique.
Et alors, cette voix parlée, déjà, au départ, la voix parlée n'a pas forcément du tout de lien avec la voix chantée. Il peut y avoir des gens qui ont une voix... enfin, peut-être vous allez me dire le contraire. Ben, c'est ça, je sens que vous allez me dire le contraire. Mais justement, est-ce qu'enfant, vous aviez déjà parlé une voix particulière ?
Oui, j'avais exactement la même voix, ce qui était vraiment très étrange, parce que chez une femme adulte, c'est déjà bizarre, on m'appelle toujours monsieur quand je demande un petit déjeuner au téléphone à l'hôtel, mais mais enfant, c'est encore plus bizarre. Alors, vous avez raison, la voix chantée n'est pas toujours liée à la voix parlée, sauf chez les voix graves. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une soprano coloratour qui a une voix parlée très grave, par contre, une alto qui a une voix parlée aiguë, ça n'existe pas.
Ça s'explique ?
Oui, c'est physiologique. Voilà, c'est une règle absolue. Donc, vous savez déjà d'emblée, ça vous indique beaucoup de choses. Il y a les fausses contraltos aussi. Vous les entendez parler, vous saurez que ce sont des fausses contraltos.
Vous disiez tout à l'heure aimer la vie différente, la voix différente. On l'aime quand on est enfant ou elle est douloureuse ?
Elle est assez douloureuse. Elle est assez douloureuse. J'aimais sa puissance, mais j'étais... Plus je grandissais, plus je m'inquiétais, parce que, évidemment, quand on est enfant, on a des rêves, on a des références. Alors, au départ, on veut chanter la même chose que sa mère, et puis ensuite, on comprend gentiment que non, tu seras peut-être plutôt mezzo. Alors, on écoute Carmen, on écoute Chérubin, on se dit « Oh, c'est chouette d'être mezzo, il y a des rôles magnifiques ». On écoute Christa Ludwig, on écoute des leaders magnifiques, et puis tout d'un coup... On commence à travailler sa voix et là on découvre qu'on est contralto et c'est à la fois formidable parce que c'est rarissime mais c'est aussi lourd à porter parce que quel répertoire, quelle vie, ça va être beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus long. Donc voilà, le noir et le blanc.
Amoureuse. C'est avec cette extase langoureuse extraite des Ariettes oubliées de Maurice Ravel par Nathalie Stutzmann et Catherine Collard que se referme ce premier épisode des Grands Entretiens avec Nathalie Stutzmann. Réalisation Marie Groux, prise de son Marc Carvenès, attaché de production Solal Mazeran, mixage Stéphane Desmonts. Rendez-vous demain pour la suite à 13h et quand vous voulez sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.